Voilà un évangile de Jésus qui nous secoue. On pourrait presque se dire, bah, si c'est ça l'évangile de ce jour, j'aurais peut-être mieux fait de rester en vacances. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à son père, à sa mère, à son épouse, à ses enfants, à sa propre vie, qu'il renonce à tous ses biens. C'est pas facile à entendre, ça. Suivre Jésus, ça demande tout ça. Pourquoi est-ce que, j'allais dire, il nous prend comme ça, je ne vais pas dire à la gorge, mais quasiment, en ce dimanche de rentrée? Je pense qu'il faut peut-être replacer un peu cet évangile là où on en est dans le ministère de Jésus. Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Ça signifie que Jésus va vers sa passion, va vers le moment où il va être arrêté, torturé, mis à mort et ressuscité, mais il y a d'abord la croix qui se profile. Or, actuellement, les foules le suivent. Les foules le suivent de façon nombreuse. Et parfois, une foule, ça empêche une détermination personnelle. Pourquoi ? Non, j'ai suivi le mouvement. Tout le monde y allait, alors j'y suis allé aussi. Mais j'avais pas fait attention à ce que ça demandait. Et Jésus, en maître responsable, justement, évite que les gens suivent sans savoir ce à quoi ils s'engagent. Et il leur explique très clairement. Il n'est pas en train de leur dire « Si, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. » Jésus leur manifeste avec vérité l'exigence de sa suite. Donc il y a une honnêteté de la part de Jésus. Il y a une honnêteté extrêmement puissante, extrêmement pure de la part de Jésus. Une honnêteté, j'allais dire, de celui qui est en responsabilité. Quand on est en responsabilité, on doit être honnête, loyal vis-à-vis de ceux dont on a la charge. Jésus, là. Et donc, on sera à sa suite, pas dans un mouvement grégaire, sans comprendre pourquoi on l'avait suivi, mais on aura pu y exercer notre intelligence, notre volonté, notre liberté. Voilà ce que Jésus fait. Voilà pourquoi ça nous secoue peut-être, mais en tout cas c'est vrai. Mais, du coup, il y a quand même une interrogation. Est-ce qu'on a le droit de nous demander autant de choses ? Est-ce qu'on a le droit de nous demander de renoncer à nos proches, de renoncer à nos biens ? Ben, quand on y réfléchit, en fait, non, il n'y a personne qui a le droit de nous le demander. Un maître de sagesse n'a pas le droit de nous demander ça. Et on a même l'impression de se dire, mais est-ce que c'est pas contradictoire ? Dans le quatrième des commandements donnés à Moïse, c'est « Tu honoras ton père et ta mère ». Comment est-ce que Jésus peut dire, ben non, il faut que tu les laisses ? À moins que justement Jésus n'ait pas simplement un maître de sagesse. Et ce n'est pas avec l'autorité d'un sage qu'il parle, mais c'est avec l'autorité de Dieu. Il faut pas moins de l'autorité de Dieu lui-même pour pouvoir poser cette exigence, pour avoir le droit de poser cette exigence. Et donc, ça signifie que quand j'entends Jésus qui parle, la question qui m'est posée, je veux dire indirectement, mais qui m'est réellement posée, crois-tu que celui qui te parle est Jésus, vrai Dieu, vrai homme ? Crois-tu que celui qui te parle est vrai Dieu, vrai homme ? Il est toujours bon, dans une rentrée, de faire cet acte de foi. Je crois, Seigneur, que tu es pas seulement un type inspiré, un type bien, un sage. Je crois que tu es Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui avait parlé à Moïse. Je crois que tu es le Dieu fait chair et que tu es pas seulement Dieu au hasard, mais le Dieu de la vie. Vous voyez, il y a une figure dans l'histoire sainte qui peut nous aider à comprendre la disposition dans laquelle être. C'est Abraham. Je pense que vous avez entendu parler d'Abraham. Les servantes de l'Assemblée, vous avez entendu parler d'Abraham ? Oui, c'est bien. Abraham, vous savez, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et Dieu lui a promis une descendance. Il a attendu 25 ans pour que Isaac naisse. Puis quand Isaac avait déjà grandi, un jour le Seigneur demande à Abraham, tu vas aller sur la haute montagne et tu vas me sacrifier ton fils. Quelle étrange parole ! Tu m'as donné quelque chose pour le reprendre après, mais qu'est-ce que tu es ? Tu es un Dieu sadique et rémunérateur. Vous voyez l'image de Dieu qu'on peut se faire parfois, hein ? Le Dieu qui demande des choses arbitraires Et puis ensuite, il me dit, ah, ben voilà, tu t'es bien laissé torturer, ça m'a amusé, et donc je vais te récompenser maintenant. Quelle abomination si nous avons cette image de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous révèle pourquoi est-ce que Abraham a obéi, parce qu'il sait que celui qui lui parle, c'est pas seulement Dieu, c'est le Dieu de la vie. Abraham croyait que Dieu avait la puissance même de ressusciter les morts. Et donc, de lui faire connaître, à travers cet acte, une vie plus forte que la vie naturelle que nous connaissions. Abraham reconnaissait Dieu, pas simplement comme Dieu, mais comme le Dieu de la vie. Est-ce que je reconnais Jésus comme le Dieu de la vie? Et donc, ces paroles, c'est des paroles de vie. Parce que sinon, je vais dire, mais je vais à la mort, je vais à la folie. Si tu es le Dieu de vie, alors ta parole, ton exigence, c'est une exigence de vie. Seigneur, je crois que ta parole est une parole de vie pour moi encore, aujourd'hui. Alors on a vu ça, on reconnaît Jésus comme le Dieu fait chair, le Dieu de la vie, qui veut nous mener vers la vie. Mais on se demande face à cette exigence, est-ce qu'on en a la capacité? Est-ce qu'on a la capacité de dire, ben oui, je vais te suivre? Et là, il y a une chose un peu étonnante. Vous avez vu les deux paraboles qu'il a racontées, celle de l'homme qui veut construire une tour, et puis celle du roi qui part en guerre. Il invite, arrêtez-vous, et puis réfléchissez. Est-ce que vous avez les ressources, est-ce que vous avez l'argent pour construire la tour jusqu'au bout? Est-ce qu'avec 10 000 hommes, vous pouvez vous affronter avec celui qui vient avec 20 000? Réfléchissez, et si vous ne l'avez pas, renoncez. Donc, il nous donne une image où il s'agit d'avoir, en fait, des ressources. Ressources en argent, ressources en hommes, des moyens. Et la conclusion de Jésus, c'est « dépouillez-vous de tout ». Ben là, je ne comprends plus. Comment tu nous dis « vérifiez si vous avez bien les ressources » et de l'autre, tu nous dis « dépouillez-vous de tout ». C'est contradictoire. Est-ce que Jésus a mal choisi son exemple? Parfois, on choisit un exemple pour expliquer et ça ne marche pas du tout. Là, c'est un gros flop. Parce que Jésus, là, ce jour-là, il n'était pas, c'est pas très bien ce qu'il avait choisi. Ou alors, il y a autre chose. C'est-à-dire que, à travers cet exemple, Jésus nous invite effectivement à nous arrêter et à nous rendre compte. En fait, j'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à me dépouiller de tout. En fait, j'arrive pas à me dépouiller de tout pour te suivre. J'en ai le désir, mais j'en ai pas la capacité. Mais voilà que si le Seigneur nous fait découvrir ça, c'est pas pour nous dire « Ah ben tant pis ». Si le Seigneur nous dit ça, c'est parce que tu renonces à tes seules forces. Alors tu te disposes à recevoir une grâce que toi tu ne peux pas produire, mais que moi je peux te donner. Mais du coup, tu vas devoir rentrer dans une vulnérabilité et savoir que ce chemin, tu seras dans une vulnérabilité tout au long du chemin parce que tu ne pourras pas produire tout seul la grâce qui est nécessaire pour me suivre. Et il faut que tu fasses cette expérience pour sortir d'une illusion. Vous savez, les apôtres ont été assez longuement dans l'illusion. Vous avez Jacques et Jean qui demandent à Jésus « Qu'on soit à ta gauche et à ta droite dans ton royaume ». Jésus les interroge, est-ce que vous pouvez participer à mon destin? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons! Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur dit Jésus. Ou Pierre qui dit, mais si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. Il va le renier par trois fois. Ils pensaient qu'ils avaient suffisamment la force. Et cette force, ils finiront par l'avoir parce qu'ils la recevront de Dieu. Mais parce qu'ils auront accepté justement leur vulnérabilité. Et accepter de « Seigneur, j'avance et j'avancerai tout au long de ma vie avec cette vulnérabilité qui me semble, oui, c'est pas possible. » Oui, mais c'est possible avec toi. C'est possible avec la grâce que tu me donnes. C'est possible avec la grâce que tu me donneras chaque jour. Vous savez, dans la foi chrétienne, on distingue deux choses. Je ne sais pas si vous êtes encore vivant. Oui, très bien. On distingue deux choses. La grâce surabondante de la grâce suffisante. Qu'est-ce que c'est? La grâce surabondante, c'est une grâce, alors ça déborde. J'ai une conscience de la présence de Dieu, de son amour. J'en ai une certitude. Il y a des petits moments où on a ça. C'est clair, c'est lumineux. Mais vous avez remarqué, souvent dans notre vie spirituelle, c'est pas très très souvent qu'on a ça. C'est des petits avant-goûts de la vie éternelle. Et le plus souvent, on va faire l'expérience de la grâce suffisante. Parce que la grâce suffisante, Dieu la donne toujours. Mais la grâce suffisante, parfois, qu'est-ce que c'est énervant? C'est la grâce étonnante que on se dit, mais j'arriverai pas jusqu'au bout de la matinée. Et pourtant, on y est arrivé. Parfois, on se dit, mais je vois pas plus loin que le quart d'heure qui vient. Et pourtant, j'ai réussi à vivre droitement, justement, à rester dans la vérité. C'est cette grâce-là qui peut être très irritante parce qu'on aimerait justement que ça déborde. Mais non, on a tenu. Et étonnamment, on dit, mais je ne sais pas d'où m'est venue cette force, je ne sais pas d'où m'est venue cette patience, je ne sais pas d'où m'est venue cette compréhension. Dieu nous donne cette grâce suffisante. Mais il la donne à ceux justement qui se reconnaissent vulnérables. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je voudrais prendre une petite image justement pour nous aider à comprendre. Dieu nous invite à le suivre, mais si on regarde nos propres forces, on a l'impression qu'on n'a qu'une jambe. Ben alors essayer de marcher avec une seule jambe, ça ne marche pas, hein. Justement, c'est le cas de le dire. Il y a une jambe de notre nature et il y a une jambe de la grâce. Et ce qui est étonnant, vous savez, c'est le processus de la marche, c'est des déséquilibres. Mais pour marcher, en fait, on était sur deux jambes, là, bien posées, on est en équilibre. Mais quand on est sur une jambe, on est en déséquilibre. Et la marche, c'est justement de savoir alterner une jambe et l'autre. Eh bien, la vie chrétienne, entre guillemets, on apprend à gérer ce déséquilibre tout seul, je ne peux pas, mais avec toi, Seigneur, c'est possible. La jambe de la nature, la jambe de la grâce, oui, on peut maîtriser ce déséquilibre et avancer à la suite du Seigneur. Alors, nous sommes invités à posséder cette présence de Jésus comme Maître et Seigneur, comme celui qui nous donne la grâce, sa grâce suffisante. Et c'est ça qui nous permet de le suivre. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, le suivre, aujourd'hui? Parce qu'on va dire, mais il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je monte à... Comment je fais? Le premier lieu où on suit Jésus, c'est au cœur de la vie paroissiale. Voilà, c'est le premier champ qui nous est donné. La vie paroissiale, j'y suis à la fois avec ma famille, j'y suis peut-être avec des amis, j'y suis avec ceux que je ne connais pas encore. Ils sont avec moi en marche. C'est le lieu, c'est le champ dans lequel le Seigneur me donne de le suivre, pour vivre de la vérité et de l'amour. Et un chrétien ne peut vivre et progresser que dans la mesure où il s'engage dans un service. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et donc s'interroge pour nous, quel est le service que j'aurai au cœur de la vie paroissiale? Alors je vais avoir peur, oh là, ça prend du temps, c'est des responsabilités, c'est des soucis, mais je n'y arriverai pas. Bien sûr que vous n'y arriverez pas si vous comptez sur vos uniques forces. Mais si vous avez compris justement que le Seigneur nous dit « Je t'emmènerai dans la vie au-delà de ce que tu imagines, parce que je te donnerai ma grâce », alors il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Le service n'est pas une malédiction qui nous tombe sur les épaules, il est le lieu de l'épanouissement de notre vie, de notre foi, de notre charité. Alors, frères et sœurs, je vous invite en ce dimanche, le premier dimanche de septembre, peut-être à commencer cette année scolaire par un acte de foi. Prendre un instant de recueillement, on va avoir quelques instants de silence pour dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es vraiment Dieu, Dieu fait homme, Dieu de vie, qui veut ma vie et mon bonheur. Je le crois, je dis... De tout mon cœur, je dis cet acte de foi. Je crois aussi que tout seul, j'ai pas la force, mais que tu donnes la grâce suffisante. Seigneur, ouvre mes yeux sur le service à rendre dans cette paroisse, dans ma vie paroissiale, pour que je te suive vraiment. Amen.